France Culture.
Question du soir, Quentin l'a fait.
Il y a 30 ans, environ le 14 décembre 1995, précisément, les trois présidents serbes, croates et bosniens signaient à Paris les accords de Dayton. Accord mettant fin à la guerre en Bosnie-Herzégovine après le siège de Sarajevo et le massacre de Srebrenica. Ces accords organisent la répartition du pays en trois entités, chapeautées par un haut représentant international nommé par l'Union européenne. Mais depuis, le pays semble bloqué dans cette répartition, cerné par les attaques des partis ethno-nationalistes dont le pouvoir ne faiblit pas. C'est ce que montrent les récentes élections en République serbe de Bosnie, où le parti sécessionniste serbe a été réélu avant que les résultats soient contestés pour irrégularité fin décembre. Alors, comment les accords de Dayton, qui devaient être provisoires, ont finalement permis à une ethnocratie de s'installer durablement et que nous apprend particulièrement la ville de Mostar et ses habitants des politiques de reconstruction mises en œuvre notamment par l'Union européenne. Une invitée ce soir pour nous éclairer, pour nous guider également dans cette ville de Mostar. Aline Cateux, bonsoir.
Bonsoir, Quentin Lafay.
Vous êtes anthropologue, docteur en sciences politiques et sociales à l'université de Louvain-la-Neuve et vous signez aux éditions Actes Sud cet ouvrage intitulé « Mostar, ceci n'est pas une ville ». Merci d'être venu ce soir dans Question du soir.
Dayton a créé un monstre administratif qui ne permet pas au pays de se développer. Une grande partie de la population éduquée est déjà partie. On est devenu une nation de vieux, une nation de gens apeurés. Évidemment, il est facile de nous manipuler.
Les accords de Dayton ont gelé la guerre, mais ça n'a pas apporté une paix durable. Au lieu de construire un avenir pour notre pays, nos leaders politiques maintiennent le statu quo.
Deux habitants de Mostar, Aline Cateux, ils évoquent tous les deux les accords de Dayton. Rappelez-nous peut-être ce que sont ces accords signés il y a 30 ans, le 14 décembre 1995, à Paris d'ailleurs, paradoxalement.
Oui.
Dit paradoxalement parce que Dayton est aux États-Unis.
C'est aux États-Unis. Alors les accords de Dayton sont des accords de paix qui ont mis fin à la guerre de Bosnie-Herzégovine qui avait commencé en 1992. Et ce sont des accords qui dotent la Bosnie-Herzégovine d'une structure administrative extrêmement compliquée, un système politique qui est probablement le plus compliqué du monde, qui divise le pays en deux entités, la République serbe de Bosnie et la Fédération, et le corridor de Brčko qui est situé au nord, au nord-est, pardon, et qui fait de ce pays un pays avec un système politique extrêmement décentralisé, notamment dans la fédération, puisqu'il y a 10 cantons qui n'ont absolument aucune harmonisation les uns entre les autres. Et tout ce système politique est chapeauté par le haut représentant de la communauté internationale, qui est nommé par les pays du ce qu'on appelle le Peace Implementation Council, donc le Conseil d'implémentation des accords de paix, et qui, lui, a tout pouvoir, en fait, sur le pays, puisqu'il peut promulguer des lois, annuler des lois, démettre de ses fonctions des ministres, des gens qui ont été élus, etc., etc.
Dans ce paysage complexe, il y a quand même une chose qu'il faut éclaircir. À l'origine, on l'a dit, ces accords devaient être temporaires et pourtant, 30 ans plus tard, ils sont toujours à l'œuvre. Ce sont eux encore qui régentent, organisent ce pays.
Oui, les accords de paix de Dayton devaient être révisés régulièrement, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, en fait, concrètement, le résultat, en fait, de cette non-révision des accords, c'est qu'on a une organisation politique figée depuis 30 ans, qui n'a pas accompagné les évolutions du pays et qui n'a pas permis notamment aux oppositions de s'exprimer, qui a favorisé le népotisme et la corruption des élites politiques et la mainmise sur les populations. Et du coup, on a l'impression d'un cadre qui est beaucoup plus petit en réalité que ce que le pays aurait pu devenir. Tous les accords, tous les acteurs politiques en fait bosniens ont absolument intérêt à maintenir en effet ce statu quo, comme on a pu l'entendre de la part des deux personnes qui parlaient, des deux Mostariens qui parlaient en début d'émission. Mais ça, je pense, ça va bien aussi dans le sens de cette non-vision de la communauté internationale qui ne sait pas quoi faire de ce pays, qui n'a pas de vision pour la Bosnie-Herzégovine, qu'elle pense ingouvernable, qui pense qu'elle ne fonctionne pas, tout en disant que les accords de Dayton sont gravés dans le marbre et qu'on n'ira pas au-delà.
Vous parlez de la communauté internationale au sens large, mais un acteur en particulier, l'Union européenne, joue un rôle précis. Quel est le rapport de l'Union européenne à ces accords de Dayton et plus largement à l'état des choses, à l'état politique de la Bosnie-Herzégovine?
Moi, j'ai beaucoup de mal à me faire une opinion parce que, comme souvent avec la communauté, avec l'Union européenne, on a un discours qui est nous préserverons coûte que coûte l'intégrité territoriale du pays, la Bosnie-Herzégovine, sa souveraineté. Et dans les faits, on a 30 ans de politique qui favorise les politiques ethno-nationalistes qui sont au pouvoir et très peu de finalement d'actes concrets qui viendraient punir les actes sécessionnistes, le soutien aux anciens criminels de guerre, des actes de corruption dont maintenant on connaît vraiment toute l'étendue. Donc la vision de l'Union européenne, hormis qu'il y a depuis 2022 cette semblant d'accélération, d'accès au statut de candidat, etc., on n'a pas un discours clair sur le fait que rien ne change. Mais dans les faits...
C'est l'inertie qui marque quand même, qui revient dans vos analyses, dans le discours qu'on peut porter sur ces accords de Dayton. Rien ne change en 30 ans alors que le pays, lui, se transforme en profondeur.
Alors, en fait, ça vient aussi du fait que souvent, on décrit la Bosnie-Herzégovine comme un pays en crise perpétuelle. En réalité, ce ne sont pas des crises, ce sont des processus politiques qui sont les mêmes depuis 30 ans et qui vont dans le sens de la dislocation de la Bosnie-Herzégovine. C'est tout le projet sécessionniste serbe et c'est tout le projet sécessionniste croate, plus des influences étrangères donc, sur lesquelles on peut revenir plus tard. Et ces processus sécessionnistes sont toujours à l'œuvre. Quand vous regardez les discours aujourd'hui de Dodik ou de Milorad Dodik ou de Dragan Čović, ce sont rigoureusement les mêmes arguments, le même vocabulaire qu'il y a 35 ans au début de la guerre. Donc en fait, ces processus continuent d'avancer sans qu'on voit vraiment un terme, parce que finalement, cette espèce de crise, cet état d'urgence permanente et d'instabilité arrange tout le monde. Ça arrange principalement les affaires, puisque l'Union européenne, et ça Madame von der Leyen l'a dit assez clairement, le destin de l'Ouest des Balkans, c'est de fournir la transition verte de l'Europe, en lithium, en minerais, etc. Donc on voit bien qu'il y a une inflexion dans ce sens-là, de finalement coopérer avec des pouvoirs corrompus pour pouvoir s'assurer un certain nombre de marchés et notamment du lithium à bas prix. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est vraiment un fait analysé, montré dans les discours, on le voit dans les concessions qui sont vendues, etc., etc.
Que révèle Aline Kateu les élections anticipées en novembre dernier en République serbe de Bosnie? Que révèle-t-elle d'abord sur l'état du pays et sur l'influence de certains pays étrangers? On reviendra bien sûr sur ces pays qu'on évoque.
Ah, ce que ça évoque, c'est que, en fait, comme toujours en Bosnie-Herzégovine et depuis nombreuses années, on sait que les scrutins, pratiquement quels qu'ils soient, que ce soit au niveau entitaire, au niveau national, au niveau des cantons, au niveau local, les élections sont truquées. Donc avant c'était le système de vote qui était truqué, maintenant c'est le système de comptage. Donc on sait et on s'en est aperçu particulièrement lors des élections de 2022 que Milorad Dodik a probablement perdu le pouvoir il y a déjà 4 ans. Des manigances en fait et des discussions politiques avec la commission électorale ont fait que finalement il n'y a pas eu de recomptage. Il est démis de son mandat, il fait l'objet le poste de président de l'ARS fait l'objet d'élections anticipées, le candidat du SNSD gagne et en fait on sait pratiquement dès les résultats que le scrutin est truqué. Donc en fait, et Et donc, des nouvelles élections vont avoir lieu le 8 février. Il y a 163 bureaux de vote quand même dans 17 villes qui vont revoter. Donc, on a toujours du mal à estimer en fait quel est en réalité le encore aujourd'hui le pouvoir des politiques ethno-nationaux, puisqu'on ne sait pas concrètement combien de gens
les soutiennent
votent
effectivement.
Pour eux, les soutiennent effectivement. Donc, pour moi, c'est surtout ça en fait que ça révèle. C'est un pouvoir en perte de vitesse qui est à peu près prêt à tout pour continuer à survivre et à rester aux affaires, en fait.
Dans ce paysage politique chaotique, sinistre s'il en est, quel rôle joue, quel double jeu même joue les États-Unis? C'est un jeu qui est compliqué à comprendre. Il y a quelques mois, l'administration de Donald Trump a levé des sanctions qui concernaient la Bosnie-Herzégovine. Et dans le même temps, on a l'impression que les accords de Dayton restent, j'allais dire, presque un texte sacré pour les États-Unis.
Oui, alors cette levée des sanctions, ça a été vraiment une catastrophe parce que Milorad Dodik et tout son entourage étaient sous sanctions des États-Unis qui montraient en fait que ces sanctions commençaient à porter leurs fruits et à réellement mettre en difficulté toute cette élite politique. La levée des sanctions a montré que, en effet, l'administration Trump montrait par là, en fait, de quel côté elle penchait, tout en rappelant que, pareil, elle restait signataire garant des accords, qu'elle maintiendrait toujours la Bosnie-Herzégovine dans son intégrité territoriale et dans sa souveraineté. Et dans la foulée de la levée des sanctions, ce qu'on a vu surtout depuis ces dernières semaines, c'est un défilé d'entreprises américaines à l'ambassade des États-Unis, qui est maintenant très très scrutée à Sarajevo pour voir qui vient, qui part et ce qui se passe ensuite sur long terrain, et qui montre en effet ce double jeu de l'administration Trump, qui d'un côté dit vouloir garantir la souveraineté du pays et de l'autre côté contourne et la Constitution et toutes les lois possibles et inimaginables pour conclure toujours des affaires. De toute façon, je pense qu'il faut toujours remonter à l'argent pour comprendre ce qui se passe.
Très loin de l'argent, Aline Cateux, vous faites paraître un livre passionnant, touchant également aux éditions Actes Sud, intitulé « Mostar, ceci n'est pas une ville ». Mostar, c'est peut-être la ville qui a le plus souffert pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine. C'est peut-être la ville la plus dévastée que vous arpentez depuis 1999. Et cet ouvrage raconte 25 ans, près de 25 ans de travail, d'enquête, de terrain, de rencontre également. Pourquoi avoir vous choisissez de raconter ce que représente, ce qu'est fondamentalement Mostar, ses habitants, pour comprendre au-delà ce qu'est la Bosnie-Herzégovine?
Parce que je trouvais que la question de Mostar, elle reflète beaucoup d'autres villes en réalité. Elle est très spécifique dans son destin politique et dans son destin de ville divisée, de ville détruite, etc. Mais finalement, quand les Mostariens disent que leur ville n'existe plus et qu'elle n'est plus une ville, ce sont des choses en fait qu'on entend dans d'autres villes aussi. Et ce qui m'intéressait, c'était que plutôt que de le traiter sous l'angle de l'énième angle de la reconstruction, les transformations urbaines, etc., etc. Mmh. C'était de prendre au pied de la lettre ce que disaient les Mostariens, à savoir que la ville avait disparu. Et j'avais vraiment envie de me pencher sur cette disparition et de me dire alors, qu'est-ce qu'il a fallu qu'il se passe pour que les gens qui sont nés dans cette ville, au milieu de laquelle on est et on discute, disent que leur ville n'existe plus. Et c'est ce que j'explique en fait dans le livre, ce sont toutes ces couches en fait successives de disparitions qui se sont additionnées, qui font que cette ville a disparu et que en tout cas la ville d'autrefois a été balayée non seulement par la guerre mais aussi par un après-guerre dont beaucoup de Bosniens disent qu'il est aussi effroyable que la guerre parce que on ne sait pas quand est-ce qu'il va s'arrêter.
La ville disparaît, la ville a disparu, Aline Cateux, et dans le même temps, il reste des choses profondes, vivantes. Ses habitants, vous les avez mentionnés évidemment, et on y reviendra, mais également un motif que l'on retrouve partout autour du monde et dans toutes les guerres, le motif de la ruine. La ruine sur laquelle vous menez une réflexion importante. Que représente-t-elle, cette ruine? Que représentent ces ruines, d'ailleurs, pour les habitants de Mostar?
Alors, on dit, je veux dire, le point de vue des Mostariens sur les ruines de leur ville a beaucoup évolué en 30 ans, puisque la temporalité en fait de ces ruines font que leur place dans la ville évolue. Déjà, il y en a quand même de moins en moins, même si elles restent extrêmement imposantes
et visibles,
et puis surtout dans des endroits très stratégiques en fait politiquement dans la ville, notamment sur l'ancienne ligne de sur la place d'Espagne, qui était l'ancien centre-ville, on va dire une partie importante de l'ancienne ligne de front qui marque l'entrée d'un côté à l'autre de la ville, comme il est encore vécu, cette division est encore vécue par les Mostariens. Donc déjà, quand on va vers la Neretva, par exemple, de cette place d'Espagne, on est entouré de ruines qui marquent comme un... Voilà, comme une porte d'entrée. Et puis tout l'est de la ville qui est laissé en ruine volontairement par la mairie de Mostar, qui est dirigée par le HDZ, par les ethno-nationalistes croates, qui ne veulent pas d'abord investir dans cette ville, dans cette partie de la ville, et qui sont souvent très humiliantes pour les gens, en fait, qui rappellent la guerre, qui rappellent qu'ils vivent encore dans les ruines 30 ans plus tard. Et puis depuis pas longtemps, je note aussi cette petite ambiguïté qui est on n'en peut plus des ruines, et en même temps, tant qu'elles sont là, on se souvient encore de comment c'était avant la guerre. C'est-à-dire qu'elles sont moins insignifiantes de la violence que encore une trace de ce qu'il y avait avant. Donc les gens voudraient en même temps s'en débarrasser, et en même temps, j'irais vraiment pas jusqu'à dire qu'il y a un attachement, mais il y a quelque chose d'un petit peu plus ambigu dans cette relation aux ruines aujourd'hui, de la part des Mostariens.
Les Mostariens, les ruines et le pont évidemment de Mostar que l'on va découvrir, redécouvrir dans une archive de 2004.
Le dos d'âne, les marches, tout a été reconstruit à l'identique. Ce pont est la réplique parfaite de celui qui fit la gloire de l'ancien plongeur, Emir Balik.
J'ai plongé 1000 fois du vieux pont dans la Neretva.
Les eaux de la Neretva sont profondes. Emir était le roi des plongeurs, une tradition devenue attraction touristique. Novembre 1993, le pont succombe aux obus croates. D'abord alliés contre les Serbes, les chrétiens croates et les musulmans bosniaques s'entretuent. 11 mois de combat, la ligne de front est encore visible et malgré ces nouveaux ponts, la ville reste coupée en deux.
Il n'y a pas de mur comme il y en avait à Berlin, mais il y a une ligne invisible entre les deux camps.
Au-dessus de la zone chrétienne, une immense croix. En face, les minarets des mosquées. Avec le temps, la reconstruction du pont de Mostar devrait contribuer à rassembler une ville déchirée. Les touristes, eux, commencent à affluer.
On va parler du pont de Mostar, Aline Kateu, mais vous me disiez, lorsque le son était diffusé, que Emir, 80 ans, continuait de plonger encore aujourd'hui.
Oui. Aux dernières nouvelles, en tout cas, ça fait un moment que je n'ai plus vu Monsieur Balic au moment des compétitions de saut du pont. C'est une figure de Mostar extrêmement respectée. C'est le symbole du pont, en fait, si on peut dire ça.
Alors ce pont, justement, que représente-t-il? Ce que vous montrez bien également dans cet ouvrage, hein, Mostar, ceci n'est pas une ville, c'est qu'il y a un double symbole, peut-être la perception des Européens, pour qui le pont représente la réunion, le rapprochement, la voie de passage. Pour d'autres, le pont, c'est aussi une marque de séparation, c'est un lieu que l'on traverse.
Oui, le pont n'a jamais été un lieu de rencontre. Il s'impose, parce qu'en fait, c'est le symbole d'un passé et d'un présent mostarien, mais il n'a toujours fait que relier la rive gauche et la rive droite de la Neretva au sein de la vieille ville, qui est un quartier notablement bosniaque musulman. Donc il n'a jamais eu cette dimension en fait de réunifier la ville, etc. Ça, c'est un discours qui a été construit au moment de la planification de la réunification et de la reconstruction du pont, qui a commencé le projet a commencé dès 1994, et c'est allé de pair en fait avec le plan de réunification de la ville. Et 2004, en fait, de la réunification de la ville en mars 2004 jusqu'à la réouverture du pont en juillet 2004, c'est quand même surtout une formidable opération de communication de la communauté européenne qui était responsable de la reconstruction de la ville. Mais les Mostariens ont été complètement exclus comme ils l'appellent, ce nouveau vieux pont, et notamment de scènes qu'on m'a rapportées, puisque moi j'étais à Mostar au moment de la reconstruction du pont et de son inauguration, mais je n'étais pas à la cérémonie en fait. Les Mostariens étaient relégués à quelques centaines de mètres fenêtre de la cérémonie où il y avait tous les dignitaires de la Banque mondiale, etc. Et regardait cette cérémonie sur un espèce de drap tendu sur une place en ruine, avec une image extrêmement mauvaise. Et eux étaient exclus, en fait, de cette réappropriation du pont. Le pont était fini des semaines et des semaines avant son inauguration.
C'est une cérémonie qui avait du sens malgré tout pour eux, ou bien ils se sentaient distants de tout ce qu'ils observaient?
Ah oui, non, c'était, et puis surtout, cette cérémonie d'inauguration n'avait absolument aucun rapport avec Mostar. C'est-à-dire qu'il y avait même pas de citation de poète mostarien, de référence au pont. Je veux dire, c'est pas comme s'il y en avait pas dans la littérature. C'était une espèce de spectacle imposé qui n'avait pas beaucoup de sens. Et ces Mostariens qui ont eu le droit de marcher sur leur pont après tout ce que la communauté internationale, la Banque mondiale, etc., compte de dignitaires qui étaient présents ce jour-là.
Vous menez par ailleurs, Aline Kavto, toute une réflexion sur ce que c'est que le retour chez soi, le retour après l'exil, et vous montrez bien que les grands mots, là aussi utilisés par l'Union européenne, par la communauté internationale, les mots de stabilité, les mots de sécurité, au fond, sont nécessaires, mais pas suffisants. Il faut beaucoup plus pour revenir chez soi après l'exil. Alors, que faut-il ?
Ce qu'il faudrait, ce serait un retour, c'est ce que je dis un petit peu dans le livre, c'est-à-dire que, en fait, finalement, rentrer chez soi, ça voudrait dire rentrer dans le passé. C'est ça que les gens expriment, c'est-à-dire que rentrer chez soi, rentrer dans sa maison, c'est pas juste rentrer dans ses quatre murs à son ancienne adresse, parce que le paysage a changé, parce qu'autour c'est en ruine, les voisins ne sont plus là, ou les voisins sont peut-être encore là, mais ne veulent pas vous parler. Tout est complètement défait. Vous n'êtes plus dans aucun cercle social, vous ne reconnaissez plus rien. Donc rentrer chez soi, pour la communauté internationale, ça a été surtout cette volonté, comme il était dit à l'époque, enfin, que je trouve particulièrement choquant, c'était comme faire... quelque part, c'était réparer le nettoyage ethnique, puisque les gens allaient revenir de là où ils avaient été chassés.
Je signale que vous avez mis des guillemets autour de réparer en prononçant le mot.
Oui, parce que vraiment, de toute façon, ça n'est pas réparable et certainement pas comme ça. Et rentrer chez soi, ça voudrait dire retrouver une sécurité et retrouver quelque chose de l'ordre de l'attachement qui n'est plus possible quand on rentre dans un endroit où souvent, le plus souvent, on n'est pas le bienvenu et où on n'a plus aucun repère.
Comment les accords de Dayton et ses ramifications s'inscrivent-ils dans la ville et dans la vie des Mostariens ?
Alors, ils s'inscrivent... Alors, c'est une question... c'est une question assez...
Mais
oui, c'est ça. Je vois bien. Alors, en fait, au-delà des accords de Dayton, je dirais qu'il y avait déjà... Ça s'inscrit dans la vie de Mostar par sa partition ethnique et par la ségrégation dans laquelle les Mostariens ont très longtemps vécu et contre lesquels ils se battent tous les jours. Les accords de Dayton ont permis ça. Aujourd'hui, je dirais que par-delà les accords de Dayton, par exemple, si je veux une application concrète, en plus des accords de Dayton, il y a eu cette fameuse réforme électorale de 2022 qui va à l'encontre des accords de Dayton, mais qui ethnicise le vote, et qui a eu pour effet de tuer dans l'œuf toute opposition citoyenne. Et Mostar est un très bon exemple de ça, puisque on voyait depuis quelques années bouger au niveau politiquement, au niveau local, des partis dits citoyens qui avaient fait un très long travail de terrain, qui avaient réussi à rentrer au conseil municipal, et qui après la promulgation de la loi de 2022 n'avaient absolument plus leur place nulle part, sont quand même arrivés au pouvoir au niveau de la fédération et au niveau de l'État, et ont choisi de faire alliance avec les ethno-nationalistes. Et le premier effet de ça, par exemple, pour les Mostariens, ça a été la fermeture du bureau de ce parti que j'ai en tête à Mostar après 15 ans d'efforts. Et le silence, en fait, qui s'est imposé sur les oppositions citoyennes, leur action, le noir s'est vraiment fait en fait sur ces oppositions.
Je vous ai posé une question vaste, mais je pensais même à une ramification plus lointaine que vous décrivez également dans l'ouvrage. C'est service public communautaire avec l'exemple de la santé. Vu de France, c'est édifiant.
Alors, la division du système de santé fait extrêmement peur. Et puis surtout, au-delà de la division du système de santé, c'est aussi la corruption du système de santé qui fait que je ne sais pas combien de pourcentage de médecins sont réellement médecins et d'infirmières réellement infirmières, puisque on peut acheter des diplômes, etc., etc. Et que la corruption fait aussi que si vous ne pouvez pas payer pour un certain type de soins, etc., etc., vous ne serez pas soigné. Qu'il y a des pénuries de médicaments tout le temps parce que les budgets partent dans les poches soit des chefs d'hôpitaux qui sont eux-mêmes affiliés à des partis politiques. Et les services publics à Mostar sont en effet toujours divisés malgré la réunification de la ville. Et ça a donné lieu notamment à l'empoisonnement d'une partie de la ville avec la gestion de la décharge d'Oubourac au nord de la ville, où on a découvert que à l'occasion de la réunification, des sociétés parallèles se sont créées aux nouvelles institutions publiques qui ont permis de détourner comme ça pratiquement des centaines de millions en fait des services publics, qui n'ont pas permis en fait de protéger du coup les citoyens et leur santé.
Mostar, ceci n'est pas une ville et pourtant vous en parlez comme tel, Aline Quetteux, dans ce très bel ouvrage qui a paru hier même aux éditions Actes Sud dans la collection Les routes de l'après. Merci d'être venu au micro de Questions du soir ce soir et merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Bertie Bourdon, Bruno Barada, Rodi Eken, à la réalisation Léa Racine.